Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonsresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business. Check-up santé au cœur de l'innovation santé. Fabien Guez.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans Check-up Santé. Vous êtes claustrophobe, agoraphobe, vous avez peur du vide, vous avez peur des insectes. Eh bien, ces phobies vont disparaître en quelques mois grâce à la thérapie par exposition à la réalité virtuelle. La société C2Care, leader mondial de cette thérapie, est avec nous par l'intermédiaire de son directeur général, Pierre Gadea. Elle est née il y a 2 ans et dispose déjà d'un budget de 38 milliards d'euros pour aider les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. C'est la CNSA, Caisse Nationale de Solidarité sur l'Autonomie, 5e branche de la Sécurité Sociale. Virginie Magnan, sa directrice générale, a l'immense charge d'améliorer les conditions de vie de cette population qui va croître considérablement ces prochaines années. Enfin, notre cher médecin généraliste, quel sera son rôle, sa place dans la société française du 21e siècle? L'Académie nationale de médecine a établi un état des lieux et fait des propositions pour confirmer sa place indispensable. Et c'est le professeur Guy Valencien qui va nous en parler. Check-up santé, c'est parti. Virginie Magnan, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être sur le plateau de Check-up Santé. Vous êtes passé par l'IEP Paris, vous avez fait l'ENA. Et après un beau parcours dans l'administration publique, vous dirigez la CNSA, la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie. C'est vrai que l'espérance de vie augmente et par conséquent le nombre de personnes âgées. D'où l'intérêt peut-être de créer cette cinquième branche?
Tout à fait. La société française est confrontée à une autre transition que la transition écologique, qui est la transition démographique. La société vieillit parce que la part des plus de 60 ans dans notre pays augmente, et la part des plus de 75 ans aussi. D'ici à 2050, nous aurons d'abord des personnes de plus de 60 ans qui seront plus nombreuses que les moins de 20 ans, et puis la part des plus de 75 ans qui aura pratiquement doublé pour passer d'un peu plus de 6 millions à un peu plus de l'ordre de 13 millions. Donc c'est un enjeu très important.
Heureusement que la population globale ne va pas trop baisser par rapport à d'autres pays, hein, comme l'Italie, comme le Japon, etc. Donc c'est vrai que cette branche n'est pas très connue, parce qu'elle n'a pas de guichet, c'est ça ?
Oui, d'abord, vous l'avez dit, nous sommes la dernière née des caisses nationales de sécurité sociale. Nous existons depuis 2 ans, le 1er janvier 2021. Et notre spécificité dans cet environnement, c'est de ne pas disposer de caisses locales. Vos auditeurs connaissent sans doute les CAF pour demander des allocations familiales ou les CEPAM. Nous, nous travaillons avec des acteurs territoriaux déjà en place, qui n'ont pas notre nom, qui sont les MDPH, les maisons de l'autonomie, mais qui constituent d'une certaine manière un service territorial de l'autonomie qui nous appartient de consolider et de rendre visible.
Alors, quelle est la mission principale donc, de cette cinquième branche ?
Eh bien, notre première mission...
Il y a plusieurs services que vous proposez, mais la principale mission ?
Eh bien, la principale, conformément à notre nom, caisse, c'est de financer, d'apporter la solidarité nationale pour soutenir l'autonomie des personnes âgées ou des personnes vivant avec un handicap. Qu'est-ce que ça veut dire, soutenir l'autonomie ? Eh bien, c'est apporter des aides individuelles qui vont permettre aux personnes, par exemple, de faire appel à un service à domicile. Mmh. Une personne âgée, elle pourra bénéficier de l'APA, l'allocation prestation autonomie. Mmh. Une personne handicapée, de la prestation de compensation du handicap.
Pour pouvoir rester surtout chez elle le plus longtemps possible, c'est ça ?
Autonome, sécurisé, bien accompagné. Et puis, à côté de ces aides individuelles, qui représentent un total de 6 milliards d'euros, nous finançons aussi en tout ou partie le fonctionnement d'établissements ou de services qui accompagnent au quotidien les personnes. Dans le champ de l'âge, ce sont les EHPAD. Dans le champ du handicap, il y a toute une palette d'établissements et de services, aussi bien pour les jeunes ou pour les publics adultes. On connaît les IME, les foyers d'accueil médicalisés, etc. Donc, c'est 30 milliards d'euros que nous allouons pour le fonctionnement de ces structures. La création de la branche, qu'est-ce qu'elle apporte ? C'est des financements renforcés de la solidarité nationale, avec en particulier le produit de la contribution sociale généralisée.
Alors, quand on pense aux personnes âgées, aux personnes en situation de handicap, on pense aussi aux aidants. Est-ce que vous aidez les aidants ?
Bien sûr.
Ça fait partie de vos missions.
Ça fait partie de nos missions natives, telles qu'elles ont été définies par le législateur qui a créé cette cinquième branche en 2021. Notre mission, c'est de soutenir les personnes âgées, les personnes handicapées et ceux qui les accompagnent, donc les proches aidants, qui représentent une population importante. Presque 9 millions de personnes, nous dit l'adresse, la structure statistique des ministères sociaux.
Que j'ai invité plusieurs fois dans l'émission.
C'est un très bon choix. Et ces aidants, nous les aidons de plusieurs manières. D'abord en leur apportant une aide financière pour leur permettre de prendre du temps pour s'occuper de l'aider. Parmi les aides déployées récemment, il y a ce qui s'appelle l'AJPA qui vient financer le congé proche aidant de l'ordre de 62 euros par jour pour un congé qui peut représenter jusqu'à 3 mois sur la vie professionnelle de l'aidant. C'est aussi des solutions de répit, des plateformes vers lesquelles les aidants peuvent s'orienter pour bénéficier d'un diagnostic, de plans d'aide, de temps de répit, que sous la forme d'hébergement temporaire ou d'aide à domicile. Donc voilà, des aides financières, des aides de formation pour que l'aidant soit plus armé pour faire face à cette situation des solutions.
Alors justement, donc, quand on pense personnes âgées et personnes en situation de handicap, on pense aux aidants, on pense aussi au métier de l'autonomie.
Bien sûr, puisque...
vous intervenez là aussi sur ces métiers, oui ?
Oui,
les aidants, oui.
Nous intervenons pour une raison très simple. Les établissements et services qui accompagnent les personnes âgées et les personnes handicapées au quotidien le font avec des professionnels. Des professionnels du soin, des médecins, des professionnels paramédicaux, des ergothérapeutes, des professionnels sociaux, éducatifs, des aides-soignants, des auxiliaires de vie, toute une palette de professionnels. Ils sont plus d'un million d'eux. Des professionnels avec des qualifications très différentes. Et des professionnels qui ont en commun d'être animés par le sens de leur métier, mais qui sont aussi des professionnels qui sont confrontés à des difficultés, parce que c'est un métier qui expose...
Même d'être activité, ces métiers,
exactement,
bien sûr.
Donc il y a des risques professionnels, une sinistralité qui est importante, des problèmes de dos, aider une personne, ça génère des troubles musculo-squelettiques, comment être aidé, c'est des aménagements, et puis ce sont aussi des professions qui sont mal payées, il faut le reconnaître. Et le gouvernement, la Caisse nationale, finance des revalorisations substantielles dans le secteur de l'aide à domicile et puis pour les professionnels en structure avec le Ségur.
Alors, vous avez créé un portail qui s'appelle Mon Parcours Handicap. Il sert à quoi ce portail?
Alors, nous avons créé ce portail, là encore récemment, dans le courant de l'année 2020.
À partir d'un exemple australien?
À partir d'un exemple australien, tout à fait. Et à partir d'une recommandation d'un rapport parlementaire, comme quoi les rapports sont importants, ils ne servent pas que à caler des coins de table, ils sont des aides à la décision. Ce rapport, il s'intitulait « Plus simple la vie », il disait que les personnes avaient du mal à accéder aux droits, que c'était le parcours du combattant, et il formulait différentes propositions, parmi lesquelles celle de créer un grand portail en prenant l'exemple de l'Australie.
Et qu'est-ce qu'on trouve dans ce parcours?
Dans Mon Parcours
Handicap,
ouvert
à tout le monde, évidemment.
Bien sûr. D'abord, c'est un outil qui s'enrichit progressivement. C'est important de le comprendre parce que les personnes qui vont se connecter, elles ne trouveront peut-être pas tout de suite la réponse à leurs besoins. Donc, on l'enrichit progressivement. On trouve de l'information fiable, officielle et de référence parce que c'est un site en .gouv. Toute l'information qui est là, elle est vérifiée, elle est validée. Donc les personnes peuvent avoir confiance sur les droits, sur les aides, sur les démarches. On trouve des informations pour soutenir les parcours de scolarisation, les parcours professionnels. On trouve depuis très récemment des informations sur les aides techniques, c'est-à-dire des objets, des mobiliers, des outils numériques qui vont permettre d'améliorer l'autonomie du quotidien des personnes pour se lever, faire sa toilette, se nourrir, se déplacer. Donc c'est vraiment une mine d'informations et puis ça va être une mine de services. Très rapidement, on va pouvoir se connecter à sa MDPH, par exemple, au travers de Mon Parcours Handicap, faire sa démarche en ligne, c'est prévu pour les prochaines semaines. Voilà, donc une information fiable et du service.
On conseille tout le monde d'aller sur ça s'appelle Mon Portail Handicap ?
Mon Parcours Handicap.
Mon Parcours Handicap. Merci beaucoup Virginie Magnan, directrice de la CNSA. On va à présent accueillir Guy Valencien de l'Académie nationale de médecine.
BFM Business, Check-up santé, au cœur de l'innovation santé.
Guy Valencien, bonjour.
Bonjour Fabien.
Alors je vais raccourcir votre CV, sinon on n'aura même pas le temps de parler.
Oui, oui.
Vous êtes membre de l'Académie de médecine, vous êtes président fondateur du fameux congrès CHAM, à Chamonix tous les ans. Est-ce que, répondez-moi d'abord, avant votre rapport, à une question. Est-ce que le médecin généraliste est une espèce en voie de disparition?
Alors c'est une question qu'on s'est posée à l'occasion des auditions que nous avons faites pour pour cet avis de l'Académie. On s'est posé la question, est-ce qu'il va disparaître compte tenu de la poussée incroyable de l'intelligence artificielle et de la montée en puissance des autres professionnels de santé? Est-ce qu'il va se transformer en généraliste du petit, c'est-à-dire devenir tous pédiatres, pédiatres ou du vieux gériatre ou
rhumato
ou gynéco ou andrologue pour l'homme, parce qu'on s'occupe des femmes et pas des hommes? Et en fin de compte, là, on s'est dit, ben non. La solution, c'est qu'on redéfinisse le rôle et la place du médecin généraliste dans notre société du 21e siècle.
Alors justement, quand on dit maintenant que pour être un médecin généraliste, il faut 9 à 10 ans d'études pour devenir généraliste ou spécialiste en médecine générale, on dit ça maintenant comme ça, c'est vrai qu'il faudrait quand même peut-être raccourcir du fait que vous parliez de l'intelligence artificielle, des nouvelles technologies. Alors, il faudrait enlever...
Oui, mais bien évidemment. Enfin, cette idée d'avoir voulu mettre dans les déserts... pour aller dans les déserts. Des jeunes qui feraient un an de plus avec des enseignants, des médecins maîtres qui sont déjà débordés dans les déserts, n'ayant pas le temps donc de former le jeune. C'est absurde. Et je pense que dans une suite licence, master, doctorat de 8 ans, voire peut-être moins, mais de 8 ans, avec les éléments de la simulation aujourd'hui, on peut répéter toutes les figures que l'on veut, les cas
on
les plus rares.
On apprend mieux et plus vite.
Et ensemble, avec les autres professionnels. Et non pas tout seul, comme pour
le concours. Alors, l'Académie donc, a fait un super travail sur la pratique de la médecine générale en France, un état des lieux et ensuite des propositions. Donc, je vais juste donner des chiffres avant de parler des propositions. 100 000, à peu près 100 000 médecins généralistes, mais finalement, à peu près entre 40 et 45 000 qui font vraiment de la médecine générale effective. Une population qui vieillit, puisque la moyenne d'âge chez les hommes, c'est 55 ans. C'est assez âgé. Et pour les femmes, c'est 47 ans. Il y a la population, la démographie médicale aussi est en berne. Hein. 148 médecins généralistes pour 100 000 habitants, avec des disparités phénoménales. Hein. Seine-Saint-Denis, 60 médecins pour 100 000 habitants. Un médecin travaille 55,5 heures par semaine. Il touche à peu près 6 700 euros par mois en ayant commencé à travailler à 30 ans, évidemment, et en travaillant 55 heures par semaine.
Ou plus,
évidemment. Alors les propositions, c'est évidemment, c'est renforcer son rôle. De quelle façon?
Bien évidemment, c'est parce que au fur et à mesure que nous aurons de plus en plus de technologies qui vont être même de connexion, de technologies connectées et qui vont nous indiquer l'état du patient, il faudra bien que quelqu'un assemble toutes ces données. Celles des autres spécialistes, c'est ce qui se passe chez les infirmiers, chez les kinésithérapeutes.
Donc un médecin moins seul, un médecin généraliste.
Donc un médecin intégrateur, assembleur de données.
Chef d'orchestre.
Il est dans une équipe. Il n'est pas au-dessus. Il est dans une équipe. Il devra, je pense, coordonner, mais pas au sens des rendez-vous. Il devra mettre en musique pour le patient, dans le cadre de consultations longues, lui expliquer ce qu'il a, ce qui va se passer dans sa vie personnelle, familiale, socio-professionnelle, la réhabilitation, tout, et le suivre. Et ça, ça peut demander un temps beaucoup plus long qu'aujourd'hui, où on a une consultation en moyenne de 15 minutes, qui n'est pas suffisant.
D'où l'intérêt de délégation de tâches.
D'où l'intérêt de partager, effectivement. Partager, et le diagnostic, aujourd'hui, j'ai été sur ChatGPT tout récemment, j'ai regardé dans ma spécialité, j'ai regardé ensuite en médecine générale pour faire des diagnostics. C'est impressionnant de voir l'efficacité du système. En 3 secondes, il nous répond.
Rémi Tesson veut nous en parler après, tout à l'heure.
Ben, très bien. Eh bien, donc, ce système ne va pas remplacer le médecin. Il va le libérer des contingences. Le diagnostic, la machine peut le faire. Le diagnostic, un personnel non médical peut le faire.
Mais c'est la prise de décision.
C'est la synthèse et l'organisation.
Il faut aussi varier les types de rémunération.
Ah, complètement, parce que dans ce cadre-là, le paiement à l'acte ne va plus du tout. Ça n'a plus de sens, puisque une consultation longue, si vous êtes payé 25 euros, c'est dérisoire. Et donc, il va falloir probablement, et ça, la jeune génération y est prête par rapport aux anciens, c'est-à-dire une partie de cooptation. Vous avez à peu près en moyenne 1000 malades par médecin en France. En Allemagne, ils sont 2000 à 2500 malades par médecin, parce qu'ils ont, les médecins, des collaborations avec les infirmiers. Et puis, une petite partie de salaire pour ce qui restera à faire de tâches administratives qui seront quand même moins importantes.
Parce qu'ils consacrent 9 heures.
Oui, aujourd'hui, c'est très important. Ouais. Ça les bouffes. Et puis une partie qui serait au forfait demi-journée et journée, avec un nombre de consultations minimales, bien sûr. De façon à les laisser libres de voir quelqu'un une heure s'il le faut, et de ne pas se dire j'ai perdu 3 consultations pendant ce temps-là.
Il n'y a pas encore de bataille un petit peu de.
Ben c'est chaud quand on a vu là.
Arrière-garde, évidemment. Mais...
on a vu avec la convention, des deux côtés, ça a cogné, parce qu'on est. Pardon, je le dis, mais. Avec ma franchise, on est dans le vieux monde. Et avec, il faut penser aux outils modernes de façon à libérer le médecin. Et le généraliste va devenir la clé du système, d'où le fait qu'il soit, et je milite pour cela, mieux payé, nettement mieux payé.
Vous parlez aussi de promotion de la pratique mixte privée et à l'hôpital.
Alors, dans ce cadre-là, même chose. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on a un système avec une fédération publique hospitalière d'un côté qui défend, qui s'arc-boute sur son acquis? On a trop d'hôpitaux, on a trop d'hôpital au sens global, avec trop d'établissements qui font tous la même chose.
En particulier à Paris, non?
À Paris, entre la Porte de la Chapelle et puis la Porte d'Orléans, vous avez une vingtaine d'établissements sur 10 kilomètres. Non mais c'est hallucinant, qu'ils font tous plus ou moins la même chose. Et donc il faut revoir la carte, c'est un vrai plan Haussmann national à revoir. Et les petits hôpitaux devront devenir des cités santé, des cités où on assurera la prévention, le soin et la réhabilitation avec les associations de patients, avec les professionnels paramédicaux. Je n'aime pas ce mot de paramédicaux. Je pense que tout professionnel qui touche un malade, qui lui parle, qui l'écoute, est un professionnel médical à graduation, à responsabilité variée.
Donc alléger un petit peu l'hôpital.
Et renforcer les maisons. Mais je crois que Agnès Firmin-Lebaudeau, qui va faire son tour de France des CPTS, a compris. Et il faut multiplier les maisons de santé pluridisciplinaires dans le cadre des CPTS, et que l'hôpital, les petits hôpitaux, en fassent partie, et qu'on puisse avoir un vrai système national de santé où les privés pourraient participer aussi à l'hôpital et vice-versa.
Mon espace santé, pour une fois, c'est une bonne chose. Mon espace santé.
Oui, bien sûr, ça va dans le bon sens, parce qu'on va pouvoir intégrer toutes les données.
À condition de former les patients, à condition de former les médecins.
Ben, il faut former les patients, bien sûr, et surtout les médecins, oui.
Pour finir, ce rapport est disponible ?
On l'a envoyé au ministère et autres, tout ça, et bien sûr, il va être disponible, bien évidemment.
Pour le grand public, pour les médecins.
Je pense, on va le distribuer, voilà.
Merci Guy Valencien, merci beaucoup.
Au revoir Fabien.
On va vous revenir évidemment. Quand vous voulez. On va à présent accueillir Rémi Tesson, qui est le patron de Buzz e-Santé.
BFM Business, Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé.
Rémi Tesson, bonjour.
Bonjour Fabien.
Vous êtes le patron de Buzz e-Santé.
Exactement.
Plus gros influenceur e-Santé de la Terre et de ses proches banlieues. On parle beaucoup du chat GPT, intelligence artificielle générative. Est-ce que c'est vraiment une révolution, notamment dans le monde de la santé?
Alors effectivement, c'est vraiment un mot qu'il y a dans toutes les bouches depuis le début d'année, et même depuis décembre dernier. Et c'est ce qu'on appelle les intelligences artificielles génératives, qui permettent de générer du texte ou du contenu. Et c'est quelque chose qui est en train de bouleverser énormément de secteurs d'activité, et notamment le domaine de la santé.
Dans quel sens ?
Alors aujourd'hui, on voit par exemple, notamment sur la rédaction de contenu, que ce soit de la rédaction d'articles scientifiques, ça peut être notamment un R&D, ça peut être également la rédaction de contenu, d'articles pour des industriels, tout un tas d'acteurs de santé.
J'aurais pu passer ma thèse avec le chat GPT.
Exactement. Ouais. Aujourd'hui, ça donne beaucoup d'indications très intéressantes et très pertinentes sur différents sujets santé. Vous pouvez l'interroger même sur certains symptômes et vous allez avoir tout un tas de solutions qui vont être proposées.
Est-ce que c'est fiable à 100%? C'est fiable?
Alors aujourd'hui,
il y a pas mal d'études qui ont montré quand même que parfois il y avait quelques erreurs.
Alors, quelques erreurs, mais le niveau de fiabilité est à un niveau qui n'a jamais été égalé jusque-là.
Et qui ne peut que
croître et être de plus en plus important. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que tous les grands acteurs du numérique se sont emparés finalement de ce sujet, puisque ChatGPT, qui est mis à disposition par une start-up qui s'appelle OpenAI, a été intégré par Microsoft dans son moteur de recherche Bing. Et puis, tous les autres grands acteurs numériques ont emboîté le pas. Vous avez Google qui a lancé sa solution Bard, Amazon, vous avez également Meta, Facebook, et puis d'autres acteurs qui commencent aussi à se lancer sur.
Donc c'est l'éloge de la paresse dans le futur ?
La paresse, je ne sais pas. En tout cas, c'est une vraie technologie qui va être au service des praticiens, des patients, etc.
Alors justement, petite parenthèse, si on posait la question à ChatGPT, est-ce que vous connaissez Check-up Santé ?
Alors j'ai posé la question à ChatGPT, donc il connaît bien l'émission Check-up Santé et son animateur, donc je vous rassure, vous êtes connu de ChatGPT.
Alors, on termine par la start-up du mois.
Exactement. Donc, eVirtual, qui est une start-up qui propose un selfie vidéo qui permet, donc vous faites un selfie vidéo de 30 secondes et qui permet d'analyser la peau et les éléments du visage.
Et donc pas mal de paramètres alors.
Et pas mal de paramètres, notamment tous les paramètres cardiovasculaires. Et donc ils ont obtenu un label et une certification avec un marquage CE qui leur permet du coup de pouvoir avancer sur le développement de ce projet.
Bon, on les invitera dans le Check-up Santé. Merci beaucoup Rémi, merci.
Merci Fabien.
À très vite.
BFM Business, Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé.
Pierre Gadea, bonjour.
Bonjour Fabien, merci de m'accueillir.
Alors, merci surtout vous de venir de Toulon, malgré les problèmes de transport. Alors, vous dirigez la société C2Care depuis déjà 2015.
C'est ça.
Ça fait 7-8 ans. Vous êtes le leader mondial de la thérapie par exposition à la réalité virtuelle. On appelle TERV aussi. Alors, c'est quoi exactement cette thérapie par exposition à la réalité virtuelle?
Alors, C2Care a pour mission depuis maintenant 7 ans d'aider les personnes en souffrance psychique, en les aidant à retrouver autonomie et liberté face à des handicaps comme les phobies, les troubles du comportement alimentaire ou les addictions. L'une des meilleures méthodes pour se débarrasser de ces phobies, c'est de pouvoir s'exposer dans des thérapies par exposition in vivo, dans le réel. C'est-à-dire que si vous avez peur du vide, vous allez avec votre psychologue, votre psychiatre, qui va vous confronter à différents niveaux d'exposition, de difficultés, pour vous apprendre à maîtriser votre angoisse et votre anxiété. D'accord. Or, quand vous avez peur de l'avion, partir avec son médecin psychiatre ou son psychologue
dans un avion, ça coûte cher.
C'est pas possible.
Tandis que là, vous embarquez dans un avion par la réalité virtuelle.
Exactement. On a exactement les mêmes ressentis en pouvant faire une exposition qui est graduelle et couplée à des thérapies cognitivo-comportementales. On apprend à maîtriser son anxiété.
Alors, ça permet de traiter principalement, hein, d'abord, vous avez commencé par ça, par les phobies, hein, la peur du vide, la maxophobie que je ne connaissais pas, la peur de conduire. La claustrophobie, la peur des insectes, des avions, enfin il y a des dizaines et des dizaines de phobies.
Exactement, et surtout aussi.
Et là, et vraiment là, scientifiquement, vous avez montré que ça marchait.
Écoutez, nous on a
avec des résultats.
Exactement, nous on n'a rien inventé. C'est les thérapies par exposition à la réalité virtuelle existent depuis plus de 30 ans. Aujourd'hui, nous on a travaillé à la démocratisation de leurs usages pour les rendre accessibles au plus grand nombre, hein, que ça soit en institut, en hôpital, hein, ou maintenant à domicile. Au niveau des études, on a 22 centres hospitalo universitaires avec lesquels on travaille, qui s'occupent de faire la rédaction des cahiers des charges et des protocoles.
Donc ça s'adresse, on a parlé des phobies, ça s'adresse aussi aux troubles anxieux, au stress, le fameux stress qui a été provoqué par le Covid d'ailleurs.
Oui, exactement. L'une des résultats, je pense, que du Covid, c'est qu'on a pris conscience que la santé mentale était importante et il y a encore des séquelles aujourd'hui avec énormément de burn-out, de phobies, des peurs de contamination, des
suicide,
peurs de parler en public. Et aujourd'hui, la réalité virtuelle couplée à un accompagnement thérapeutique, et c'est très important de ne pas déshumaniser le soin, d'avoir ces méthodes, on ne joue pas à se faire peur, on est sur une aire thérapeutique, donne d'excellents résultats.
Alors, comment ça marche, surtout?
Alors,
comment ça se passe? Vous vous abonnez, c'est ça? C'est un abonnement?
Tout à fait. Alors,
vous allez sur la société C2Care, évidemment.
Exactement, sur le site de C2Care, vous avez un premier entretien qui est fait avec un psychologue pour qu'on puisse comprendre, un psychologue clinicien diplômé, pour essayer de comprendre si on peut vous accompagner, pour comprendre quel est l'objet de votre phobie. Et à partir du moment donné où on peut vous accompagner, vous allez commencer à faire des séances d'exposition qui, au départ, vont être guidées par
votre psychologue. Pratiquement, on va vous envoyer par la poste, donc un casque, c'est ça, de réalité virtuelle.
Vous allez recevoir un casque de réalité virtuelle à la maison qui va vous permettre...
Avec tous les logiciels
qui sont préinstallés, avec lesquels vous allez pouvoir commencer à vous exposer avec votre thérapeute. Et l'intérêt, c'est de pouvoir répéter les exercices pour retrouver en moyenne entre 4 mois et demi et 5 mois une liberté, une autonomie.
Et avec deux consultations par mois par un psycho.
Deux consultations par mois par un psycho qui va vous donner les clés pour apprendre à maîtriser votre anxiété. Ouais.
Et qui va peut-être un peu évaluer vos progrès.
Oui, il y a une évaluation qui est faite pour justement cette graduation et qui donne d'excellents résultats.
Alors ça s'adresse aussi, cette thérapie, par exposition à la réalité virtuelle, la TERV, elle s'adresse aussi aux addictions. Mais là, il faut être vraiment dans un centre adapté.
On ne déclenche pas donc cette craving, cette pulsion de consommation, on ne déclenche pas cette pulsion à domicile.
Bien sûr.
Il faut être en présence d'un soignant qui peut être capable de sédater et d'apporter les soins nécessaires en cas de craving qui est beaucoup trop fort.
Alors vos clients, ce sont donc évidemment les patients, mais aussi les structures, vous disiez.
Alors aujourd'hui, à C2Care, on est à près de 200 000 expositions depuis notre création. On a plus de 2000 praticiens qui soient des libéraux, des hôpitaux et des cliniques qui se sont équipés. Et aujourd'hui, on a suivi plus de 600 patients, en fait, hein, aujourd'hui. D'accord. Et on a aujourd'hui une file active de 200 patients qu'on suit.
Avec des retours que vous avez pu évaluer quand même ?
Oui, c'est très important pour nous, avec les retours scientifiques, mais aussi d'avoir
une grande efficacité,
puisque les patients restent en moyenne 4 mois et demi. Et arrête, si vous voulez, on ne veut pas garder justement les patients, on veut que ça soit des thérapies qui sont des thérapies brèves, efficaces, pour garder les patients le moins possible.
Ça coûte combien ?
C'est 120 euros par mois, avec le matériel, donc c'est un casque professionnel qui a une valeur de 700 euros.
Mais qui est loué.
Qui est loué, tout à fait. Et avec l'accompagnement d'un professionnel expert de santé certifié qui vous prend en charge de ça par mois. Et
ça vaut le coup par rapport à cette phobie qui vous gâche la vie.
Bien sûr,
finalement.
Bien sûr.
Et en quelques mots, le futur de votre société ?
Le futur de notre société, il se fait sur deux axes. Le premier axe, c'est de pouvoir ouvrir ces thérapies aux entreprises, notamment dans le traitement du burn-out. On a déjà commencé. Et le prochain axe, c'est de pouvoir avancer et développer à l'international.
Merci beaucoup,
Pierre
Gadea de C2Care. Vous retournez tout de suite à Toulon ?
Je reste encore un peu profiter de la vie parisienne.
Très bien, vous avez raison. Et surtout des grèves et des... Merci beaucoup, Pierre Gadea. C'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine.